Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripia. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Karine n'était pas forcément pressée d'avoir des enfants. La raison principale, sa peur de l'accouchement. Et puis, elle a rencontré son mari et ses craintes se sont envolées. Pour son premier accouchement, elle programme naturellement la pose de la péridurale, sa mère lui ayant toujours expliqué que c'était une très belle avancée pour les femmes. Elle est d'autant plus rassurée lorsqu'elle rencontre son anesthésiste, croisé il y a quelques années plus tôt à une soirée déguisée. Tout se passe très bien, la rencontre avec son petit garçon est merveilleuse et Karine a très envie de remettre ça. Elle met au monde sa petite fille sous péridurale également et la famille s'agrandit sous de jolis auspices. Puis, elle change de maternité suite à un déménagement et pour son troisième accouchement, la pose de la péridurale ne va pas se passer aussi facilement que les précédentes. L'anesthésiste est hésitante, elle s'y reprend à plusieurs fois et Karine n'est pas du tout à l'aise. Mais l'accouchement se déroule bien, Karine rencontre son troisième bébé avec néanmoins des douleurs qui vont s'intensifier. Personne ne semble s'inquiéter à la maternité, alors Karine peut rentrer chez elle avec quelques doliprane. Mais les douleurs à la tête persistent et se font plus fortes. Retour aux urgences où on lui diagnostique une brèche durale, l'un des risques liés à la péridurale. Dans cet épisode, Karine nous raconte ses accouchements sous péridurale, les douleurs liées à la brèche durale après son troisième accouchement, le blood patch qui aura permis de la soigner, et elle nous raconte son quatrième accouchement physiologique cette fois-ci, et toute la force et l'assurance qu'elle ressent depuis. Bonne écoute. Bonjour Karine.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Avec grand plaisir, j'avais vraiment envie de la raconter.
Alors, tu es la maman de 4 enfants. Quel âge ils ont ?
Alors, j'ai 4 enfants de 9 ans. Mon fils aîné, Solal, a 9 ans et demi bientôt. Ma fille, Elia, a 7 ans et demi. Le troisième, Milan, a 4 ans. Et le petit dernier, a 8 mois.
Comment, toi, est arrivé le sujet de la maternité au sein de ton couple ? Est-ce que, déjà, c'est quelque chose à laquelle tu pensais depuis toute petite ou pas du tout ?
Alors, quand j'étais enfant, je me demandais si j'allais avoir cette envie d'enfant et cette envie de maternité parce que je me faisais toute une montagne de l'accouchement et je me disais que ça avait l'air vraiment terrible et je me demandais si j'allais rencontrer la personne qui me donnerait envie plus tard d'avoir des enfants.
Parce que tu avais eu des récits d'accouchement
Il me semble que j'avais dû entendre dans l'imaginaire collectif où j'avais dû glaner des conversations me disant que l'accouchement pouvait être vraiment catastrophique, que c'était une douleur incommensurable et c'est ce que j'ai toujours entendu. Donc dès mon plus jeune âge, j'ai eu ça en tête et de même, je n'avais pas spécialement envie de pouponner.
Ah oui. Et ta maman t'avait pas raconté, elle
Alors, je ne sais pas si elle m'a raconté l'accouchement, enfin celui, le jour où elle m'a mise au monde, mais je sais que ça a été un accouchement absolument catastrophique.
Ah, donc ça vient peut-être de là finalement.
Ouais, je pense, là en le disant, j'ai une prise de conscience et c'est possible parce qu'on a vraiment failli y passer toutes les deux. Donc, à mon avis, elle a dû me le transmettre consciemment ou inconsciemment, et donc il y avait cette peur qui était ancrée en moi.
Mmh. Et alors tu rencontres l'homme de ta vie, celui qui partage ta vie en tout cas aujourd'hui. Donc comment le sujet vient entre vous deux ?
Alors j'ai rencontré mon mari en juin 2006 et je dirais que dès le mois suivant, nous avons commencé à imaginer les enfants que nous pourrions avoir et nous avions déjà réfléchi au prénom.
Ah oui ?
Sachant que c'était pas du tout un projet imminent parce qu'on se trouvait trop jeune, moi j'avais encore 25 ans à l'époque, lui avait 2 ans de plus que moi, on avait des projets professionnels et puis on avait envie de profiter de la vie tous les deux, mais on savait qu'on s'était trouvés et que nous voulions des enfants tous les deux.
Et alors toi, est-ce que cette peur de l'accouchement a refait surface ou pas ?
Alors pendant longtemps, pendant plusieurs années, l'envie d'enfant était très présente chez mon mari et chez moi, elle n'arrivait pas. Et je me disais, c'est pas possible, ça va jamais survenir. Nous nous sommes mariés en 2010 et quelques mois après le mariage, je lui ai dit, ça y est, je me sens prête, j'ai envie d'avoir des enfants. Et là, j'avais complètement occulté ma peur de l'accouchement. L'envie d'avoir un enfant était viscérale. Mmh. Et au bout de quelques mois, je suis tombée enceinte. Donc, je suis tombée enceinte en avril 2011.
Alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
La première grossesse s'est très bien passée. Je n'ai quasiment pas eu de maux de grossesse. Je me sentais très épanouie. Les gens étaient très étonnés quand j'ai annoncé ma grossesse, notamment auprès de mes collègues, parce que je l'ai annoncé à plus de 5 mois de grossesse et ça ne se voyait pas parce que je suis grande et que j'avais encore un peu d'abdos à ce moment-là. Donc mon bébé était mis dans une telle position qu'on voyait à peine mon ventre. Ouais. Et j'étais très très heureuse. Vraiment, j'étais très épanouie et je n'avais plus aucune appréhension.
Donc les 9 mois se déroulent bien, vient le jour de l'accouchement, t'en redoutais. Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as voulu une péridurale ?
Alors pour l'accouchement, moi il faut savoir que j'ai un côté très bon élève, donc j'avais pris tous les cours de préparation à l'accouchement. Et quand on m'a exposé les choses, on m'a parlé des avantages de la péridurale, on m'a aussi dit les risques mais en les minimisant et en me disant que vraiment c'était très rare qu'il y ait des complications. Donc pour moi c'était une évidence que j'allais prendre la péridurale, je me disais on a ça à notre disposition, pourquoi est-ce que nous devrions souffrir ? Donc le jour J, c'était le 17 décembre 2011, c'était la date que j'avais choisie. Et le bébé était prévu pour tout début janvier 2012, mais moi je voulais accoucher en décembre et j'avais choisi le 17 décembre parce que c'était un week-end et que mon mari allait être à côté de moi. Et donc j'ai perdu les os, j'ai perdu un liquide, c'était en réalité une fuite, de la poche des os s'était fissurée. Et nous sommes allés à la maternité, j'ai vu la gynécologue qui me suivait, on a regardé et puis ça allait être le jour J. Et tout s'est bien passé, même si au fond j'ai quand même eu un déclenchement parce que le bébé était encore haut, le col ne voulait pas s'ouvrir. J'ai eu malheureusement quand même une expression abdominale, donc c'est quelque chose qui est censé être interdit. Mmh. Mais la gynécologue qui me suivait a insisté et a demandé à mon mari de vraiment appuyer sur mon ventre pour expulser le bébé. Et j'en reviens à la péridurale, j'avais une péridurale, et ce qui est très drôle, c'est que ce jour-là, j'ai commencé à tenir un bon moment, j'arrivais à gérer les contractions, mais à un moment, je me suis dit, il faut vraiment qu'on appelle l'anesthésiste, et là, je le vois arriver, un homme providentiel, et je me suis dit, c'est pas possible, je le connais, sachant que j'ai vraiment du mal à reconnaître les visages, c'est un véritable déficit chez moi. Et quand il ressort, je dis à mon mari, je le connais. Et ça m'est revenu. Je lui dis, mais oui, c'est Fadi. Et c'était l'ex d'une copine qui avait fait ses études avec moi. Non. Et la dernière fois où je l'avais vu, nous étions à une soirée déguisée tous les deux. Moi, j'étais en Mary Poppins. Lui était en pirate. Et on se revoit dans ces conditions. Et quand il est revenu dans la salle, il m'a dit, Karine, c'est toi la copine de Magali. Et il avait vu mon nom. Et c'est en voyant mon nom qu'il m'a reconnue.
Incroyable.
Donc j'étais vraiment hyper rassurée, il était expérimenté, j'étais dans une clinique privée. Donc on payait un supplément pour l'anesthésiste, mais ça fait que c'était un anesthésiste qui, en général, commettait très peu d'erreurs et qui était très expérimenté, très rassurant. Il me l'a posé parfaitement.
Et la rencontre alors avec ton premier bébé ?
La rencontre s'est très bien passée, nous étions tous les deux aux anges, le bébé allait très bien, un petit garçon qu'on a appelé Solal, et tout s'est mis en place naturellement et facilement.
Oui, t'as allaité ou pas ?
Oui, alors j'allais dire, la seule chose, c'est que l'allaitement a été un peu compliqué, évidemment, c'était aussi mon côté bon élève, j'avais entendu que l'allaitement, ça pouvait être l'idéal pour le bébé, donc je me suis dit, moi je vais allaiter, ça me semblait naturel, j'ai bien réalisé que c'était bien plus compliqué qu'on ne le croyait, mais je me suis obstinée à vouloir le faire, j'avais des crevasses horribles, j'avais l'impression d'avoir des aiguilles dans les tétons à chaque fois qu'il tétait. Je suis allée voir une sage-femme spécialiste et qui m'a dit qu'en réalité il avait un frein de langue et que c'était ça qui gênait la succion. Donc nous sommes allés chez un ORL pour faire couper le frein de langue, mais malgré tout ça a été très douloureux et au bout d'un moment j'ai pris la décision d'arrêter l'allaitement parce que je souffrais trop, donc j'ai allaité 2 mois.
Suite à ton accouchement, est-ce que tu t'es dit j'ai eu peur autant de temps?
Alors, après l'accouchement, j'avais qu'une envie, en tout cas quelques mois après, c'était recommencer à avoir un autre enfant.
Ah oui.
Vraiment, j'avais adoré, même si je reconnais, quand je décris mon accouchement, je réalise que j'ai eu des complications, mais finalement, ça s'est vite rétabli, et puis on est tellement pleine d'hormones et tellement heureuse quand on a notre enfant dans les bras, que c'était vraiment une envie viscérale, une fois de plus. Et là, cette fois-ci, c'était mon mari qui était un peu moins pressé que moi, et moi, au bout d'un an, vraiment, j'étais décidée, j'ai dit à mon mari, il faut vraiment qu'on fasse un autre enfant.
Oui. Alors vous avez remis ça.
Voilà, et lui a dit d'accord, et je suis tombée enceinte tout de suite.
D'accord, donc un an plus tard, oui. Deuxième bébé en route.
Voilà, pile un an après, j'étais enceinte de ma fille, et j'ai su tout de suite que c'était une fille, je l'ai sentie. Je me revois, je ne savais même pas que j'étais enceinte, et je ne pensais pas que ça allait arriver comme ça du premier coup. Et puis ce jour-là, j'avais un bouton, alors que je ne suis pas sujette au bouton. Je suis allée à la boulangerie, j'avais très très envie de sucrer, et je me suis dit, si je suis enceinte, c'est une fille.
Ah oui. Comment s'est passée cette deuxième grossesse ?
Alors la deuxième grossesse s'est très bien passée, j'ai eu quelques maux de grossesse un peu plus présents que pour la première, puisque j'ai eu une sciatique, j'avais quelques douleurs diffuses, mais j'étais tellement heureuse de cet état que ça a été vraiment une très belle période.
Mmh. Et là, pour l'accouchement, pareil, tu choisis de passer par la case péridurale ?
Pour l'accouchement, c'était une évidence que j'allais reprendre une péridurale. J'avais refait les cours d'accouchement, j'avais rencontré un anesthésiste qui m'avait réexpliqué les risques et les bénéfices de la péridurale à ses yeux. Et donc, le jour J, j'étais prête et j'espérais retrouver mon anesthésiste favori.
Ouais. Ouais, oui, du coup, t'as accouché dans la même maternité.
Voilà, j'étais dans la même maternité et je me suis dit, si j'ai de la chance, et en général, j'ai de la chance, je me suis dit, si j'ai de la chance, ça va être lui. Et le jour J, qui est arrivé dans la salle ? Lui.
Donc tout s'est très bien passé. Pour la pose, aucun souci.
Il a parfaitement posé la péridurale. Et donc là, j'ai accouché en septembre 2013. Et donc les techniques avaient évolué, en tout cas dans cette maternité, ce qui fait que ma péridurale pouvait être dosée. Alors que la première fois, il m'avait dosé la péridurale très fort. C'est pour ça d'ailleurs que quand mon mari appuyait sur mes côtes pour l'expression abdominale, je me rendais compte de rien. Alors que lui me disait, j'appuie très fort, t'es sûre, ça te fait pas mal. Là, j'ai pu doser la péridurale, donc elle était plus légère et j'ai pu beaucoup plus ressentir les choses.
Mmh. Et alors, rencontre avec ta fille, deuxième enfant.
Tout s'est bien passé, j'étais en forme, j'ai vu ma fille, j'étais très heureuse. En revanche, je n'étais pas prête à allaiter à nouveau parce que j'avais vraiment, vraiment souffert. Avec le recul, j'avais réalisé à quel point j'avais souffert. Et d'office, j'ai fait la tétée d'accueil parce que je sais que c'est important pour le bébé qui bénéficie du colostrum. Et la nuit même où j'ai tenté d'allaiter, j'ai eu à nouveau des crevasses faramineuses. J'ai commencé à saigner et je me suis dit, bon, je laisse tomber. J'avais un gynécologue qui était vraiment très bienveillant et très enveloppant qui m'a dit, bon, écoutez, c'est pas votre truc, ne vous forcez pas. Mmh. J'ai déjà entendu cette phrase plus d'une fois, mais il vaut mieux un biberon donné avec bonheur plutôt qu'un allaitement mal vécu. Et sans culpabilisation aucune, je ne l'ai pas allaité.
Et comment se passaient tes suites de couches avec la péridurale ? Est-ce que tu étais en forme rapidement ou pas ? On dit souvent que quand on accouche de manière physiologique, on se remet beaucoup plus rapidement qu'avec une péridurale.
Donc avec la péridurale, oui, moi j'ai remarqué que je n'avais pas le droit de me lever. J'étais très frustrée. Ils me disaient non, on vous transporte en fauteuil. Et ça me faisait un peu peur parce que je me suis dit, non mais quand je vais me relever, est-ce que je vais bien avoir l'usage de mes jambes ? Mais à chaque fois, j'ai pu me relever quelques heures après et j'ai vu que je n'avais aucune douleur, que j'étais tout à fait maîtresse de mes membres, qu'il n'y avait aucune problématique. En revanche, je sentais quand même que j'étais un peu assommée et que j'avais quand même du mal à me rétablir. Je me sentais un peu comme dans du coton, pas en pleine forme, ça c'est certain.
Et on te disait quoi sur les risques de la péridurale, tu te souviens ou pas ?
Alors, quand on m'avait évoqué les risques, on m'avait dit que je pouvais avoir de forts maux de tête. Donc, je me disais, des maux de tête, c'est pas grave du tout. J'avais demandé, puisque j'étais aussi, je m'étais dit, tant qu'à faire, je préfère poser mes questions qui peuvent sembler idiotes, mais au moins, je vais m'en délester. J'avais demandé si on pouvait être paralysé. On m'a dit, mais non, ce sont des légendes urbaines. Donc, tout ça avait été balayé d'un revers de main. J'avais été très rassurée. Et en plus, comme j'étais profondément convaincue au fond de moi que j'allais prendre la péridurale, sachant que ma mère avait eu 3 accouchements avant, qu'elle avait fait avec et sans, elle m'avait dit « mais la péridurale, c'est merveilleux ». Donc j'étais vraiment influencée en ce sens.
Donc là, tu te retrouves maman de 2 enfants. Comment se passe cette maternité ? Tu te sens à l'aise dans ton rôle de maman de 2 ? rapprochés.
Tout se passe très bien. Ils avaient 21 mois d'écart. J'ai pris un congé parental, donc je m'occupais pleinement de mes deux enfants. Je dois dire que le congé parental à cette période, ça n'a pas été la période la plus épanouissante de ma vie, parce que j'avais l'impression de ne faire que ça. C'est-à-dire que je changeais les couches, je rangeais plus ou moins. On avait une femme de ménage, mais qui venait quand même peu pour m'aider. Et le soir, quand mon mari me racontait sa journée de travail, je me disais, il a de la chance, parce que moi, je lui disais, j'ai changé des couches, j'ai donné à manger. Et même si c'était merveilleux de partager tous ces moments avec les enfants, je me rendais compte qu'une vie sociale me manquait.
Ouais. Et alors, au bout de combien de temps l'idée d'un troisième surgit ?
Au début, nous étions très bien avec nos deux enfants, mais nous savions depuis le début que nous voulions trois enfants.
D'accord.
Donc là, on savait que ça allait pas être aussi rapproché. Et puis, quand Elia est entrée à la maternelle, là, on s'est dit que c'était le bon moment. Voilà, donc elle avait 3 ans quand je suis tombée enceinte. C'est ça, elle avait 3 ans quand je suis tombée enceinte du petit troisième. Donc c'était une fois de plus, on a décidé, je suis tombée enceinte tout de suite. Donc j'ai vraiment cette chance-là, j'en suis vraiment consciente. Et à chaque fois, je pense à toutes les femmes qui ont des difficultés et j'essaie toujours de les soutenir et de leur donner des paroles encourageantes parce que je suis consciente de ma chance et je ne veux surtout pas les heurter en l'évoquant.
Comment s'est passée cette troisième grossesse ?
Alors ça s'est très bien passé. Dès le début, j'ai senti que c'était un garçon parce que j'avais des envies alimentaires complètement différentes quand j'attends un garçon ou quand j'attends une fille. Au fond de moi, j'avais envie d'avoir une fille parce que j'étais dans un schéma familial qui fait que nous étions 3 filles. J'ai été élevée, entourée comme ça de femmes. Et au début, je me suis dit, oh là là, mais un garçon, je sais pas comment faire. Après, mon premier était tellement mignon que je me suis dit, deuxième garçon, c'est bien garçon, fille, garçon. Ça me semblait très bien. Et donc, quand j'attends un garçon, en plus, j'ai une grossesse encore plus facile que pour une fille. Donc, je n'ai pas eu de nausée, j'ai eu très peu de maux de grossesse. À la fin, bien sûr, je me sentais quand même lourde. J'avais une sciatique, j'avais mal au dos, mais c'est ce que vivent quasiment toutes les femmes enceintes.
Et alors, entre-temps, vous avez déménagé ?
Alors, quand est-ce qu'on a déménagé ? Nous avons déménagé nous avions déménagé quand Elia avait à peine 1 an. Donc nous nous sommes installés toujours en région parisienne, mais loin de la maternité où j'avais accouché. Et donc il était question de changer de maternité et ça n'a pas été évident. Au début, j'étais allée m'inscrire dans une clinique privée à côté. Et quand j'y suis allée, je me suis sentie très mal. Il y avait une espèce d'ambiance mortifère parce que nous étions mélangés avec les gens qui étaient traités pour des pathologies lourdes. Et comme je suis très empathique, je voyais des gens souffrir à côté de moi dans la salle d'attente et je me suis dit non, ça va pas être possible de venir dans cette clinique. J'avais pas été spécialement bien accueillie. Donc j'ai fait le tout début, les premières échographies dans cette maternité et je me suis dit il faut que j'aille ailleurs. Et en septembre, donc j'étais enceinte de quelques mois, j'ai une amie qui m'a dit « Écoute, moi je suis allée dans le public, pas loin, je te recommande vivement d'y aller parce qu'ils sont vraiment super, tu vas voir, au moins tu peux aller te faire aller visiter et te avoir ton propre avis, tu me diras ce que tu en penses. » Et quand j'y suis allée, je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai tout de suite été en confiance, le gynécologue que j'ai choisi, c'est celui qu'elle m'avait recommandé, c'était le chef de pôle de la maternité, un homme très rassurant, très doux, très rigoureux, très ponctuel aussi, donc il y avait tout pour me séduire.
Donc là, j'imagine que la question du troisième, question péridurale ou pas, ne se pose même plus.
Voilà, là, pour cette grossesse-là, je me suis dit, je ne vais pas... Est-ce que je fais les cours d'accouchement ? Je me suis dit, ça date un petit peu, j'ai repris les cours d'accouchement. En revanche, il y avait un cours spécifique sur la péridurale et les risques et la manière de procéder, et je n'y suis pas allée puisque je me suis dit, je connais déjà tout, j'ai déjà accouché 2 fois, je sais comment ça se passe, je suis très confiante, je sais que je la veux à 100%, sans aucun problème, donc je n'y vais pas. En revanche, j'ai rencontré l'anesthésiste puisqu'on a un rendez-vous obligatoire, et là, j'ai été surprise parce que l'anesthésiste a regardé mes prises de sang qu'on fait au préalable pour être sûr qu'on puisse être éligible à la péridurale. Et là, il me dit, elles sont parfaites, vos prises de sang. J'ai rarement vu des prises de sang aussi bien. Je me suis dit, j'étais flattée. Hein. Mais bon, je trouvais que c'était un peu étrange. Et là, il a juste palpé mon dos à travers mon pull. Et j'ai trouvé que c'était pas très rigoureux. Moi, j'étais habituée à avoir un rendez-vous un peu plus rigoureux. Mais je sais que c'est souvent expédié aussi, les rendez-vous avec l'anesthésiste.
Et alors, comment se passe ce troisième accouchement ?
Alors, pour le troisième accouchement, ce qu'il faut savoir, une fois de plus, par rapport à la péridurale, ce qui est assez amusant, c'est que j'avais vu mon ostéopathe, que j'adore, qui ressent bien les choses et qui sait bien cerner les gens, juste avant d'accoucher, je l'avais vu pour qu'elle puisse faire en sorte que l'accouchement se passe au mieux. En gros, elle m'aide, elle aide à l'ouverture du bassin.
D'accord.
Et là, je lui avais dit, non, moi, évidemment, je vais prendre la péridurale. Elle m'a dit, ah bon, c'est étonnant, parce que vous, qui faites de la méditation, du yoga, et vu votre personnalité, vous pourriez très bien accoucher sans. Et pourtant, moi, qui ai une confiance absolue en elle, je me suis dit, non, mais jamais de la vie. Mais j'avais quand même, elle avait émis cette hypothèse et je m'étais dit, ah bah peut-être que je pourrais avoir le tempérament pour ça, mais pour moi, il en était hors de question. Et le jour J, donc une fois de plus, j'ai accouché à la date voulue, hein, c'est troisième accouchement, troisième fois à la date voulue, et justement, j'en reviens à cette ostéopathe, elle m'avait dit, bah moi, mon fils est né le 10 février. Et je lui ai dit, ah ouais, 10 février, je trouve ça pas mal. Bon, bah, je vais accoucher le 10 février. Donc le 10 février, dans la nuit du 9 au 10, je ressens des contractions rapprochées. J'écris à ma sœur qui, elle, travaillait de nuit, elle est journaliste radio, elle était en train de travailler. Et donc je lui ai dit, au bout d'un moment, écoute, je pense que là, je vais accoucher. Donc elle était toute enthousiaste. J'étais dans le secret à ce moment-là. J'ai averti mon mari au petit matin, qui a commencé à stresser. Souvent, les hommes, dans ces cas-là, sont plus stressés que les femmes, puisque moi, je gérais et je sentais bien que ça allait arriver, mais c'était pas non plus imminent. Nous sommes allés déposer les enfants chez leurs grands-parents, et puis nous sommes allés tranquillement à la maternité. Et là, le col n'était pas suffisamment dilaté, donc j'ai marché, je suis allée me promener. Et quand je suis revenue, quand j'ai été dilatée à 5, là, j'ai dit que je souhaitais avoir une péridurale.
Et donc cette pause de péridurale, tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette fois-ci.
Alors là, donc je suis dans la salle d'accouchement, on m'a installée. Et j'étais entourée de la sage-femme, de l'élève sage-femme et de l'infirmier. L'infirmier me dit, bon, c'est moi qui vais préparer la zone, l'anesthésiste va piquer, l'anesthésiste est là. Et j'ai été très étonnée, l'anesthésiste est rentré dans la salle, sachant que moi j'étais dos à la porte. Il va piquer dans mon dos sans même s'être présenté. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, d'habitude, on me dit, on se présente à une personne. Quand on est médecin, c'est la moindre des choses. Donc j'ai été surprise. Je me retourne et là, je vois que ce n'est pas un homme, c'est une femme, une jeune femme qui avait un visage très fermé. Et je sentais qu'elle avait un visage fermé parce qu'elle était stressée.
Oui.
Alors il faut savoir que moi, je sais tout de suite cerner les gens. En général, quand je dis d'une personne, je ne la sens pas ou autre, je ne me trompe pas. Et là, je me suis dit, bon, elle est stressée. Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est un geste assez précis. Elle ne me dit pas comment elle s'appelle ni rien, mais elle me dit simplement que là, elle me pose, avant la péridurale, on pose une anesthésie locale. Et déjà, cette petite piqûre qui d'habitude ne me fait pas mal du tout, sachant que je n'ai pas du tout peur des piqûres et que je suis habituée, là, elle le fait mal. Donc je me suis dit, bon, bah, ça promet. Si celle-ci me fait mal, on va voir pour la suite. Donc bon, la zone est quand même endormie, et après, au moment de faire la péridurale, elle me pose des questions qu'on ne m'avait jamais posées jusque-là, c'est-à-dire, elle me dit, est-ce que vous sentez plus à gauche, à droite, au milieu ? Donc je lui dis, bon bah non, à droite. Elle recommence, je lui dis non, à droite. Elle recommence, elle le fait vraiment plusieurs fois.
Donc là, elle te pique plusieurs fois ?
Voilà, elle me pique plusieurs fois, ce que je ne savais pas. Moi, j'avais la sensation qu'elle tapait dans mon dos, mais en réalité, c'est qu'elle piquait, parce que je ne sentais plus, vu que la zone était complètement anesthésiée. Et ça, je l'ai réalisé après. Et donc, au bout d'un moment seulement, donc je sens qu'elle commence à s'énerver un peu, à stresser. Et puis, il y avait l'infirmier qui lui disait où était le matériel, qui lui indiquait comment on procédait dans cette salle. Et puis là, elle dit, bah oui, mais c'est parce que c'est la première fois que je mène une intervention ici. Là, je me dis, bon, c'est un peu bizarre. Et puis là, elle sent que je commence à me crisper un peu. Et elle dit, non, mais rassurez-vous, c'est pas la première fois que je fais une anesthésie. Et là, j'ai commencé à vraiment stresser. Parce que pour qu'on me dise ça, j'avais l'impression que c'était la première fois.
Ouais. Donc, justification.
Voilà, une justification que je n'ai pas demandée et qui, au contraire, m'inquiète. Et je la sentais vraiment toujours très angoissée. Puis au bout d'un moment, elle pique à nouveau. Et là, je sens comme un liquide froid qui remonte tout le long de ma colonne. Et j'ai très très mal au niveau des cervicales et au niveau du cou. Et comme j'ai toujours tendance à me dire que tout est de ma faute, je me dis, bon bah c'est comme au moment de faire le dos rond, j'ai dû trop me crisper, surtout que j'étais crispée avec ce qu'elle venait de me dire. Je me suis dit, bon bah c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal fait les choses. Je l'indique, je dis, écoutez, là j'ai très mal, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir senti quelque chose remonter. Et l'infirmier qui lui était très bien, qui semblait avoir pas mal de connaissances, me demande si j'ai un goût métallique dans la bouche. Je trouve la question hyper bizarre. Et voilà, j'essaie de ressentir, je lui dis non. Donc voilà, le sujet est clos.
Mais en plus, avec, enfin, pendant ce temps-là, tu as toutes tes contractions
Oui, à ce moment-là, j'avais encore des contractions. Et moi, j'arrive très très bien à les gérer, justement, grâce au yoga et compagnie. Donc, je me dis que finalement, j'aurais pu très bien m'en passer. Et je sens toutes les contractions. Donc, il faut attendre quand même que les contractions passent pour qu'elles retentent de piquer. Et à un moment, d'ailleurs, je m'étais dit, je vais leur dire d'abandonner. Ça faisait vraiment longtemps. Je commençais à m'énerver, à être stressée, toute rouge. Et je me disais, non, mais je vais faire sans, c'est pas grave. Parce que là, je voyais bien qu'elles ne maîtrisaient pas les choses. Et je préférais maîtriser moi, surtout que moi j'aime bien maîtriser les choses. Je me disais là, ça va être de mon domaine, tant pis, je vais accoucher sans. Mais c'était trop tard, le processus était enclenché. Mmh. Et pile au moment où je commence à suggérer ça, elle me dit bon bah c'est bon. Elle était hyper soulagée et elle s'apprête à partir. Et je dis mais c'est bon, mais comment je fais pour la péridurale? Parce que moi je ressentais encore tout. Et elle me dit bah vous appuyez sur le bouton. Donc on m'avait rien montré, j'avais même pas vu que j'avais un bouton, une péridurale à doser. Donc tout ça c'était très mal fait tout simplement. Et en plus, je sentais encore les contractions, donc je me dis, bon, bah, tout ça pour ça. J'ai appuyé pas mal sur le bouton et ça a commencé à s'amenuiser.
Et ton mari, il était avec toi à ce moment-là ?
Alors, mon mari, pour la première fois, c'était très étrange aussi. D'habitude, les deux fois, il était resté quand on m'avait posé la péridurale. Et là, elles ont demandé tout de suite, avec insistance, à mon mari de partir. Et on était étonnés de cette manière de nous presser, de nous dire, bon, bah, allez, il faut sortir, il faut sortir. Et là, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il doit sortir ? D'habitude, il reste. On a dit, bah, parce que les maris peuvent être impressionnés par la taille de l'aiguille, ils peuvent s'évanouir. Nous, nous sommes très, très respectueux de ce qu'on nous demande. Il est sorti. Et il m'a dit ensuite qu'il avait voulu revenir une première fois au bout du temps qu'on lui avait indiqué, donc moins de 30 minutes. Et on lui avait dit non, ça prend plus de temps que prévu, repartez. Donc là, il a été un peu alerté. Et quand il est revenu, quand il a enfin pu revenir, donc largement plus de 30 minutes après, il a vu que moi j'avais les larmes aux yeux. Moi je me souvenais même pas, enfin j'avais même pas réalisé que j'avais les larmes aux yeux, que j'étais toute rouge, toute énervée. Et puis j'ai levé les yeux au ciel en montrant l'anesthésiste qui allait partir. Et en lui disant, voilà, je la sentais pas du tout et je pense qu'elle a mal fait les choses. Et comme je ne suis pas du tout du genre hypocrite ou menteuse, je l'ai dit très clairement à la sage-femme une fois que l'anesthésiste est sortie, parce que je sentais que l'anesthésiste était très gênée. Je lui ai dit, écoutez, j'espère que je vais pas finir paralysée hein, avec cette péridurale. Et elle me dit non, elle me dit en plaisantant, non, non, là, les paralysies, les gens paralysés, ça, c'était au 19e siècle. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y avait la péridurale au 19e siècle? Ça, je ne suis pas sûre. Mais comme elle a balayé ça aussi d'un revers de main une fois de plus, je me suis dit, bon, j'étais rassurée. Et comme ça fonctionnait, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est finalement moi qui ai été un peu stressée sur le coup, qui ai eu une douleur un peu étrange, mais là, je vais accoucher. Et j'ai accouché dans les minutes qui suivent, en 3 poussées, sans aucun problème. Elle était bien dosée, puisque je l'avais dosée moi-même. Donc j'ai bien senti le bébé qui passait dans le bassin. Tout s'est très bien passé. Pour la première fois avec mon mari, nous avons pleuré à la découverte du bébé, alors que les autres fois, nous étions plutôt stoïques.
Ah oui ?
Et là, nous avons pleuré de joie. Un bébé bien tonique qui a pleuré tout de suite. Donc une petite merveille qui arrivait.
Donc, deuxième petit garçon.
Voilà, deuxième petit garçon. Nous nous disions, bah voilà, notre dernier. La famille est au complet. Donc, tout se passait très bien, finalement.
Et alors, comment ça se passe, retour dans la chambre?
Alors, au moment de retourner dans la chambre, une fois de plus, j'étais en fauteuil roulant. Je me suis dit, bon... à chaque fois ça me stresse un petit peu et j'ai demandé très rapidement à me mettre sur mes jambes. On m'a dit aucun problème, on vous tient. Et là j'ai vu que j'étais une fois de plus totalement maîtresse de mes mouvements, de mes jambes, donc j'étais rassurée. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, j'ai mal jugé cette personne, elle a bien fait son travail, voilà, la péridurale a fonctionné, tout est rentré dans l'ordre. Et puis au moment du dîner, j'ai commencé à avoir de très très forts maux de tête. Je suis très peu sujette aux maux de tête, ça peut m'arriver une fois de temps en temps, notamment en période de règles, des choses comme ça, mais là, c'était très violent. J'ai alerté la sage-femme qui est venue me voir, qui m'a dit « Ah bon, bah, à surveiller ». Et puis, c'était de plus en plus intense à la fin du repas, c'était vraiment très fort. Donc on m'a dit « Écoutez, on va vous donner du café et de l'acupan, c'est un antidouleur ». Donc je me disais « C'est bizarre que je prenne ça mais... ». On me laisse passer la nuit, et à chaque fois que j'allaitais, que je me relevais pour changer la couche ou pour allaiter le bébé, je ressentais la douleur plus forte. Donc j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu, mais je ne savais pas trop ce qu'il en était. Le lendemain, la sage-femme me dit « Je vais contacter l'anesthésiste pour qu'elle vienne vous voir ». Donc je dis « Bon, bah, très bien ». Et en plus, j'avais émis l'idée, j'avais dit « Est-ce que ça peut être lié à la péridurale ?» Je ne connaissais pas du tout les symptômes. Et on m'a dit... bon, on contacte l'anesthésiste, elle n'est jamais venue me voir. On m'a rapporté des tonnes de café et de l'acupant, mais à dose, donc c'est voilà, un antidouleur assez fort, mais à dose réduite, puisque j'allaitais, donc je ne pouvais pas en prendre beaucoup.
Ah oui, d'accord.
Donc là, je prends mes antidouleurs, et ce qui était très étrange, c'est que à chaque fois que je m'allongeais, ça repartait, j'allais mieux. Et à un moment, il y a une auxiliaire de puériculture qui arrive pour donner le bain au bébé. Et mon mari était là à ce moment-là. Et je commence à essayer de me relever pour donner le bain. Et là, j'ai envie de pleurer tellement la douleur est forte. Parce que en plus d'avoir des maux de tête, j'avais très mal au trapèze, les épaules complètement bloquées. Et puis ça m'irradiait, ça partait de la nuque et ça allait à l'avant de la tête. Et c'était tellement fort, sachant que je ne suis pas douillette du tout, c'était tellement fort qu'il fallait que je sois allongée. Et là, l'auxiliaire de puériculture, qui était une femme assez sèche, mais avec un fond de bienveillance, m'avait dit « Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous ne pouvez pas donner le bain ?» Je lui ai dit « Ben là, j'ai vraiment très très mal partout, là, à la nuque, à la tête. » Elle a dit « Ah, à surveiller. » Et là, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit « Donc, ce n'est pas rien ce que j'ai, il y a quelque chose. » Et on a passé quand même le séjour à la maternité. Quelques heures après, mes enfants, les grands, sont venus. J'avais voulu m'habiller pour les accueillir, parce que je suis très coquette, j'aime bien me maquiller, m'habiller. Je n'ai pas eu le courage de me relever, donc ils ont vu une maman complètement débraillée. Je me souviens, ils voulaient jouer avec le lit qui se relève à la maternité. Dès qu'ils appuyaient sur le bouton pour relever, je leur disais de le rebaisser au maximum parce que je souffrais trop. Mais malgré tout, la découverte s'est faite avec le petit frère. Moi, je trouvais que je commençais à avoir un visage un peu étrange. J'avais commencé à gonfler du visage. Mais oui. Bon, je ne savais pas trop à quoi c'était dû. Je trouvais ça un peu bizarre. Et j'ai voulu repartir rapidement, comme c'était mon troisième enfant, et que tout se passait bien a priori. Et donc, le médecin est venu, le pédiatre est venu pour faire la dernière visite pour la sortie du bébé. Moi, j'étais encore allongée, mais personne ne s'est plus soucié de ça. Après, c'est aussi de ma faute parce que je suis du genre à ne jamais me plaindre. Donc, je disais « Non, ça va aller, moi, je veux rentrer chez moi. » Et nous sommes rentrés à la maison.
Et donc là, le retour à la maison, donc maman de trois enfants avec des douleurs à la tête.
Voilà, donc on rentre à la maison, la belle famille et ma famille étaient arrivées parce qu'ils étaient très très impatients de rencontrer le petit troisième, ce que je peux comprendre. Moi, j'étais assise sur le canapé et je commençais à souffrir, j'avais à nouveau la nuque très contractée et puis ça devenait de plus en plus fort. Donc j'essayais de boire parce qu'en plus du café, on m'a dit qu'il fallait que je boive énormément, mais sans me dire ce que j'avais. Donc j'étais là en train de boire ma bouteille d'eau et j'essayais d'aller mieux. Je voyais mon visage qui gonflait de plus en plus. Et à un moment, je leur ai dit « Écoutez, moi, je vais aller m'allonger parce que je souffre trop. » Personne ne s'est vraiment soucié de ce que j'avais, sauf ma mère quand même qui était plus prévenante et mes sœurs qui sont venues me voir. Je leur ai dit « Non, mais je reste dans le noir, j'ai trop mal à la tête. » J'ai senti que ma mère était inquiète, mais on ne savait pas du tout ce que j'avais. Ma sœur est médecin. Et elle a pensé à ce que je pouvais avoir, mais elle n'a pas osé émettre l'hypothèse, parce que voilà, elle n'est pas du genre à dire c'est peut-être ça, sans le savoir. Et donc la famille est repartie assez vite, et quand ils sont partis, le soir, j'ai demandé à mon mari d'acheter des sushis, parce que comme toutes les femmes qui viennent d'accoucher, j'en avais vraiment envie. On les commande, et puis au moment de manger, j'arrivais même pas à manger, tellement j'avais mal partout. Et je suis allée me coucher rapidement. J'avais voulu boire quelques gorgées de champagne, ça a amplifié mes maux de tête, c'était une douleur horrible. Et j'ai voulu dormir, j'arrive même pas à dormir dans le lit, je me suis mise sur un matelas, même le sol, je me sentais mieux comme ça. Et dans la nuit, en pleine nuit, j'ai voulu me relever pour allaiter mon bébé, pour allaiter Milan. Et là, au moment de m'accouder, j'ai eu un lancement, mais terrible, qui est parti de la nuque, qui est arrivé dans la tête. Et je me suis dit, non, mais je vais mourir, c'est une douleur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais il faut faire quelque chose. J'ai appelé mon mari en pleurant, j'arrivais même pas à me relever. Il a vu que ça allait très très mal, il m'a dit, bah écoute, si tu veux, on appelle SOS médecin. Moi, d'habitude, j'aurais dit, non, surtout pas, on va pas déranger. Là, j'ai dit oui. Et là, c'était assez lunaire. Au bout de quelques minutes, il était 4h du matin, un petit monsieur est arrivé, complètement hirsute, l'air totalement ahuri, les cheveux dans tous les sens. Il est arrivé dans la chambre, il m'a dit « Qu'est-ce que vous avez ?» Je lui ai expliqué mes douleurs, je lui ai dit « J'ai l'impression que c'est lié à la péridurale, mais c'est pas possible. » Je lui ai dit « J'ai eu l'impression que quand elle a piqué, c'est remonté, et que c'est à cause de ça que j'ai toutes ces douleurs. » Il m'a dit « Si, c'est possible. Bon, on va voir. » Il m'a dit « Venez avec moi dans le salon. » Donc, je l'ai suivi tant bien que mal dans le salon. Je me suis allongée sur le canapé. Lui était dans le coin cuisine, parce qu'on a un salon ouvert sur la cuisine, en train de regarder sur son téléphone qu'il avait branché là parce qu'il n'avait plus de batterie. Donc, je me suis dit « Non, mais d'accord. » Il est en train de consulter Doctissimo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Puis, au bout d'un moment, il me dit « Ah bah oui, c'est ça. Vous avez une brèche. Vous connaissez ?» Je lui dis « Une brèche ?» crèche. J'avais jamais entendu parler de ça. Ou peut-être que j'avais entendu le terme lors de ma première préparation, mais ça m'était, ça, voilà, c'était sorti de mon esprit. En même temps, j'ai une bonne mémoire, donc je pense que on m'en avait jamais parlé. Mmh. Et je dis, non, je connais pas du tout. Il me dit, mais c'est une brèche provoquée par la péridurale, c'est bien ça. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, moi, je peux rien faire pour vous. Je dis, d'accord. Mmh. Mais il y a un traitement qui vient des États-Unis, ça s'appelle le blood patch. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je me disais, mais il y a un traitement qui... Mais comment est-ce que je vais pouvoir me faire traiter? Il me dit, vous inquiétez pas, c'est fait. Il y a plein de maternités qui le font, il y en a qui le font pas. Mais il faut que dès demain matin, vous alliez, le plus tôt possible, que vous alliez aux urgences de la maternité pour vous faire poser un blood patch. Moi, de mon côté, je peux vous proposer du topalgique, vous en voulez. Donc c'était vraiment un antidouleur hyper léger. Donc je dis, oui. Donc il était tout content de nous sortir du topalgique de ses poches. C'était vraiment une scène assez drôle, finalement. Mmh. En plus, moi, j'étais allongée, donc je ne souffrais plus quand j'étais allongée. Et j'ai pris son topalgique, on lui a fait son chèque bien garni parce que c'était SOS médecin en pleine nuit, mais au moins, on savait ce que j'avais.
Il t'a dit si c'était très grave ou pas?
Voilà, moi j'avais vraiment peur, sachant qu'en plus, j'ai une tendance très anxieuse qui se manifeste par de l'hypochondrie, et je ne voulais pas faire des recherches par moi-même, je lui avais demandé si c'était grave, il m'a dit non, ça se traite très bien, vous inquiétez pas, ça va être établi, ce n'est pas grave. J'avais fait... Donc évidemment, je voulais pas le faire, mais j'ai quand même fait des recherches sur internet avant d'aller aux urgences.
La base.
Voilà, et donc là je suis tombée sur des forums de gens qui avaient eu ça, qui ne s'en étaient jamais remis, qui avaient des douleurs depuis 5 ans, qui savaient plus s'en sortir. Je me suis dit, mais j'ai un sens, j'ai beaucoup de recul, beaucoup de sens critique. Je me suis dit, je vais pas me fier à ce forum Doctissimo de 2003, je vais plutôt me fier à des avis médicaux, et encore plus à un avis médical auquel je crois vraiment, celui de ma sœur. Et là, j'ai écrit à ma sœur qui m'a dit « Oui, non, mais tu sais, c'est vraiment plus fréquent qu'on ne le croit. Ça arrive très souvent après des ponctions lombaires. » Et elle m'avait même montré dans la salle des médecins auprès desquels elle exerçait, il y a même une affiche disant « Il faut prendre ces aiguilles-là qui limitent le risque de brèche durale. » Donc, c'est vraiment bien plus fréquent qu'on ne le pense.
D'accord. Et personne n'a pensé à ça à la maternité quand t'avais mal, quand t'avais tes douleurs.
Voilà, c'est ça qui m'a fait le plus souffrir, c'est que j'ai quand même exposé, j'avais tout le tableau clinique très clair. Mmh. Et en plus, ils avaient enclenché le protocole, donc à savoir me donner du café et me faire boire, mais personne n'a évoqué le terme. Et comme l'anesthésiste a été quand même très lâche, à mes yeux, qu'elle n'est pas venue me voir, finalement, j'ai eu aucun avis d'anesthésiste qui ait pu me... mettre un terme sur mes souffrances, parce que normalement je n'aurais pas dû sortir. Et j'en ai parlé ensuite, maintenant, parce que je connais bien le sujet, quand j'ai des mamans qui me disent moi j'ai eu des forts maux de tête, je dis mais t'as eu une brèche? Ah oui, j'ai eu une brèche, on m'a fait un blood patch dans la foulée. Oui. Donc c'est là que je réalise que c'est bien plus fréquent qu'on ne le croit, et que il faut juste que l'anesthésiste le reconnaisse. L'anesthésiste dit oui, effectivement, j'ai mal effectué la piqûre et on va réparer ça.
Donc là, t'arrives aux urgences, qu'est-ce qu'on te dit?
Alors, j'arrive aux urgences de la maternité, là où j'étais allée quelques jours avant pour accoucher, sauf que j'étais pas du tout dans le même état, et on me demande mon seuil de souffrance, et là, moi qui ai tendance à minimiser, c'est mon mari qui a dit, j'arrive même plus à parler, j'étais en pleurs parce que j'étais debout, et mon mari a dit, non mais là, elle est à 200%, il faut vraiment, vraiment agir. On m'a mise dans une salle pour attendre, où j'étais allongée. Une interne est venue me voir, elle a tout de suite compris, mais elle n'a pas voulu mettre de mots dessus parce que c'était pas à elle de se prononcer. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, c'est une anesthésiste qui est venue me voir. Elle m'a dit j'attends l'anesthésiste. J'ai attendu très longtemps parce qu'évidemment, elle était sollicitée ailleurs. Je n'avais qu'une peur, c'est que ce soit l'anesthésiste qui m'avait ratée, parce que je me suis dit elle va me rater encore, c'est pas possible. Ah oui. Et là, je vois arriver une femme très bienveillante, très douce, très professionnelle, qui a bien compris ce que j'avais. Et puis elle m'a dit, je pense que c'est vraiment lié à la péridurale, on va quand même bien vérifier ça, mais ne vous inquiétez pas, vous allez boire, prendre du café, et puis ça va partir au bout de quelques heures ou de quelques jours. Et là, j'étais vraiment démunie, parce que je me suis dit, je souffre horriblement, il faut encore que j'attende pendant des jours, sachant que je tentais d'allaiter, mais allaiter complètement allongée, c'est difficile. Mmh. Et là, une fois de plus, mon mari a pris les choses en main, il a dit, non, c'est pas possible, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose, il faut que vous fassiez le blood patch, on nous a dit que c'était possible, elle peut plus attendre, elle souffre vraiment trop. Et là, elle a dit, d'accord, je vais vous faire le blood patch.
C'est dingue, c'est ton mari qui a impulsé...
Oui. Heureusement qu'il a insisté, parce que moi, à cette époque-là, maintenant, j'arrive beaucoup plus à m'affirmer, mais à cette époque-là de ma vie, je me serais pliée à ses exigences, et puis j'aurais dit, d'accord, je vais attendre, mais je n'avais jamais souffert comme ça. Et d'ailleurs, même le trajet qu'on avait fait d'ici à la maternité qui était pas loin. J'étais en voiture, j'essayais de mettre le siège au maximum allongé. Je pleurais, parce que en plus des maux de tête, j'avais l'impression d'avoir une enclume au-dessus de ma tête, comme si ma tête pesait vraiment une tonne et que mes cervicales ne pouvaient plus retenir ma tête. Mmh. Donc comme si elle était directement sur mes épaules et comme s'il y avait un étau aussi de chaque côté qui se resserrait. Et je me suis dit, je ne peux plus vivre. Je m'étais même dit, je comprends pourquoi des gens disent qu'ils ont tellement mal qu'ils veulent mourir. C'est la première fois de ma vie que ça m'a fait ça. J'ai dit, je comprends très bien, on n'arrive pas à mettre fin à nos douleurs, je peux le percevoir. Sauf que dès que je m'allongeais, au bout d'un quart d'heure, ça allait, donc ça me redonnait de l'espoir. Et là, heureusement que mon mari est intervenu, et au bout de quelques heures, l'anesthésiste est venu me voir et m'a dit, c'est bon, on va vous faire le blood patch. Et j'ai dû aller dans une salle où on a fait tout ce qui... On a aseptisé la zone. L'infirmier a prélevé du sang de mon bras, qu'elle a pris directement pour le mettre avec une aiguille péridurale, mais là c'était pas du tout le même protocole, il n'y avait pas de risque, pour venir combler la brèche qui avait été effectuée. Donc le sang vient comme un pansement pour combler le trou, parce que j'ai pas expliqué ce que c'était exactement la brèche. Donc ça s'appelle une brèche durale. L'aiguille de la péridurale est allée trop loin, donc elle a percé la dure mère et le liquide céphalo-rachidien qui vient irriguer notre cerveau ne peut plus. Il y a une fuite de ce liquide-là, ce qui fait que quand je suis debout ou quand je suis assise, le liquide n'a plus assez de pression pour venir irriguer le cerveau. Et c'est pour ça que j'avais autant de douleurs à ce niveau-là et autant de douleurs au cervical. Et en revanche, quand on est allongé, il y a plus la fuite puisque là c'est colmaté et donc il n'y a plus toutes ces souffrances. Donc là j'ai compris le processus. Quand j'étais en train d'attendre l'anesthésiste, j'ai discuté, puisque j'étais déjà sur Instagram à cette période, avec une fille qui avait eu une brèche provoquée par une ponction lombaire, donc je me sentais beaucoup moins seule. J'ai discuté avec ma sœur, médecin, qui m'a aussi fait relativiser. Donc je me sentais finalement rassurée et je me sentais beaucoup mieux. Et une fois qu'on m'a fait le blood patch, il a fallu que je reste 3 heures complètement allongée. Je n'osais plus me relever et au bout d'un moment, quand je me suis relevée, j'ai senti que ça allait mieux. Ah oui. Et là, l'anesthésiste, qui était très rigoureuse, m'avait dit, écoutez, je préfère que vous passiez la nuit ici, on va vous surveiller et on verra demain matin si ça va mieux. Donc j'ai dû passer une nuit supplémentaire, mon mari est resté avec moi. Là, je faisais une fixation sur une chose, puisque je voyais que j'allais mieux, c'était que je n'avais pas pu me brosser les dents depuis des heures et des heures. Et je me disais, mais c'est pas possible, je veux me brosser les dents. Les magasins étaient fermés à ce moment-là, j'ai demandé aux sages-femmes, c'était des infirmiers qui venaient me voir, ils m'ont dit, non, on n'a pas de kit d'hygiène malheureusement. Et le lendemain matin, dès que les magasins ont rouvert, mon mari s'est précipité pour nous acheter à tous les deux brosses à dents et dentifrices. Le chef de pôle de la maternité, qui était celui qui me suivait, est venu me voir et je lui avais dit, mais c'est bizarre parce que quand on a demandé à mon mari de sortir pour l'anesthésie, on lui a dit l'interne va arriver. Et ça l'avait un peu interpellé parce qu'il pensait pas que c'était des internes anesthésistes. Et là, je l'ai senti un peu gêné, mais il m'a dit, ah non, c'est pas possible, ce ne sont pas des internes, ce sont des anesthésistes qui sont expérimentés, qui font les péridurales. Mais j'ai quand même eu le doute, et je sais très bien que mon mari n'a pas inventé ça. Et d'ailleurs, après, j'avais réentendu qu'en réalité, c'était une interne. Donc je n'en veux pas du tout au fait que ce soit une interne, hein, mais c'est un geste tellement précis et tellement compliqué que les internes ont tendance à commettre plus d'erreurs que les gens expérimentés, c'est logique.
Et donc, retour à la maison, les dents brossées.
Voilà, les dents étaient brossées, j'étais très heureuse de rentrer à la maison. C'était le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin. Une fois de plus, vu que j'avais été privée pendant 9 mois, je dis à mon mari, on commande des sushis, on boit un petit peu de champagne. Et là, on était devant la télé tous les deux, et je vois l'image qui devient double, et je sens des bourdonnements qui arrivent. Sachant que les bourdonnements, je les avais déjà eus, mais ils me gênaient tellement moins que le reste que je ne les ai même pas signalés. Et là, je dis à mon mari, non, c'est pas possible. Alors, je me dis, c'est peut-être que je suis fatiguée. Et en même temps, je me dis, non, j'ai même très fatiguée de toute ma vie, je n'ai jamais eu ça. Je dis, c'est pas possible, ça revient. Donc, les jours suivants, j'ai
quand même... Là, t'avais des douleurs à nouveau ?
J'avais mal à la tête. D'accord. J'avais mal à la tête, mais c'était tout à fait supportable. C'était plus des troubles visuels qui sont quand même inquiétants, parce qu'en plus, dès que ça touche aux yeux, ça fait peur. Et je vois bien les images qui étaient toutes tordues, et puis je voyais double... Et je ne supportais pas la lumière aussi, donc je suis restée. Je me suis dit je vais rester m'allonger. Le lendemain, je suis restée allongée la journée. Puis j'ai dit à mon mari, écoute, on va devoir y retourner parce que dès que je me relevais, les maux de tête revenaient, les bourdonnements, la vision trouble. Et nous sommes retournés à la maternité, aux urgences. Et là, c'est la même anesthésiste qui est venue qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais comment ça se fait? J'ai du mal faire le blood patch. Elle-même était vraiment à se remettre en cause alors qu'elle avait bien fait les choses. Mais ce qu'elle m'a dit après, Elle m'a dit, je ne vous dis pas combien il y a de trous, mais a priori, il y avait 8 trous là où les tentatives avaient été faites pour faire la péridurale. Donc, c'était un vrai carnage. Mmh. Et donc, je pense qu'un blood patch ne suffisait pas pour venir combler. A priori, il y avait deux brèches à colmater.
Ah oui, d'accord.
Donc là, quand j'apprends ça, je me dis, bon... Mais j'étais tellement prête à tout, je me suis dit, non, mais on refait... Je sais qu'on peut faire jusqu'à 3 blood patches. Donc j'étais prête, j'ai dit, s'il vous plaît, on le refait au plus vite. J'ai dit, écoutez, il faut quand même que j'écarte le risque de méningite, parce que comme j'avais la nuque très raide, c'est un symptôme de méningite. Même si, elle me dit, vu le tableau que vous dressez, et puis vu ce que j'ai vu dans votre dos, c'est évident que c'est la péridurale, mais elle a dû appeler ses collègues de l'hôpital Cochin pour qu'ils donnent leur accord et qu'elle refasse un blood patch. Donc on est retourné rapidement à nouveau en salle d'anesthésie, elle a refait ça, et je me revois quand j'étais allongée pendant 2 heures après ce geste médical, en me disant pourvu que ça ait fonctionné, s'il vous plaît que je rentre chez moi, que ce soit oublié. Et là, dès que je me suis relevée, j'ai senti que tout allait bien, j'ai senti que ça fonctionnait. Et je savais que c'était fini et que ça allait, que ça allait être un mauvais souvenir. Et effectivement, je suis rentrée à la maison quelques heures après et il n'y a plus eu aucun problème. Et ce que j'ai apprécié, c'est que cette anesthésiste, cette femme-là si bienveillante, m'a écrit le dimanche pour prendre de mes nouvelles, pour savoir si j'allais vraiment mieux. Et même le petit bonhomme, le petit médecin hirsute de SOS Médecins m'a écrit pour savoir s'il avait bien identifié les choses et si j'allais mieux. Donc ça m'a touchée et ça m'a permis de ne plus trop ruminer et de plus avoir trop de rancœur envers celle qui m'avait ratée et de me concentrer sur toute l'humanité que j'avais pu voir ailleurs. Mmh.
Bon, alors là, retour à la maison, cette fois-ci pour de bon avec tes 3 enfants. Comment se passent les jours qui suivent et cette maternité de 3?
Donc là, une fois à la maison, je me suis dit, je veux vraiment profiter de tout ça. Ce qui m'avait vraiment rattachée à mon bébé, c'était le fait de l'allaiter. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à l'allaiter dans ces conditions, parce que j'avais des perfusions dans tous les sens, et il fallait que je sois allongée, mais même sans oreiller, même un oreiller me gênait. Et donc j'étais allongée sur le dos avec le bébé qui était là, qui se hissait sur mon ventre et qui tétait le sein malgré tout, et je le retenais avec mon bras plein d'aiguilles. Enfin, c'était vraiment compliqué, et je me suis dit, j'ai réussi à allaiter les premiers jours comme ça, il faut que l'allaitement se passe bien puisque mes expériences précédentes n'étaient pas très encourageantes. Et là, ça se passait merveilleusement bien. Le bébé était lui, il n'avait aucun frein de langue, rien du tout. Moi, j'étais motivée, et donc j'ai pu l'allaiter pendant 9 mois sans aucun problème. Et ça a été une expérience géniale. Et on a trouvé, chacun a trouvé sa place au sein de cette famille de 5. Et tout s'est très très bien passé les premiers mois.
Donc là, vous étiez au complet, 3 enfants.
Voilà, famille au complet. On s'est dit, c'est exactement ce que nous voulions. Et au fond de moi, je me disais, c'est difficile de faire le deuil de la maternité. Mais 4 enfants, ça me paraissait inenvisageable. Je me disais, non, mais je me souviens encore, avant même d'avoir des enfants, nous avions des voisins au-dessus de chez nous qui avaient 4 enfants. Je me disais, non, mais comment ils ont fait? Nous, on avait eu notre premier. Je me disais, mais comment ils peuvent avoir 4 enfants? Mais oh, ils sont fous. Je me permettais de juger. Et en même temps, ils avaient l'air hyper heureux. Mmh. Mais moi, je me dis, ça me paraissait vraiment incompréhensible. J'avais écrit un article sur mon blog où ça s'appelait « Le deuil de la maternité, le deuil du dernier enfant » pour pouvoir exorciser tout ça et puis faire part de mes peurs et de ma tristesse et de ce deuil que j'étais en train de faire. Et au fond de moi, je me disais, si jamais un jour la vie fait que j'ai un bébé surprise, ce serait pas mal quand même.
Ouais.
Et le temps a passé. Et puis au bout d'un moment, là, en 2019... Il n'était pas du tout question d'avoir un 4e enfant, mais j'avais toujours cette envie au fond de moi, et je sais que mon mari n'était pas fermé, mais bon, voilà, en tout cas, c'était pas du tout prévu. Et puis, c'était en janvier 2020, j'étais dans un magasin en train d'essayer des tenues de sport, et je me suis dit, c'est pas possible, j'ai un ventre comme si j'étais en début de grossesse. Je me suis dit, bon, c'est peut-être que je vais avoir mes règles, j'avais du retard sur mes règles, mais j'ai toujours eu des cycles pas forcément très réguliers. C'était pas une catastrophe, mais moi, si j'avais 10 jours de retard, c'est pas grave parce que j'avais des cycles longs. Et là, je me dis, bon, bah, c'est vraiment bizarre, c'est très très gonflé. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un test de grossesse pour déclencher mes règles. Parce que moi, j'ai un très très fort pouvoir sur mon corps, c'est bien pour ça que j'ai accouché à chaque fois les jours voulus. Et puis pour plein de choses aussi, tout ce qui est psychosomatique fonctionne très bien chez moi. Et je me suis dit, bon, j'achète le test, je ne l'ai dit à personne. Je l'ai dit à mon mari quand même, j'ai acheté un test. Il m'a dit, ah non, mais t'es tellement psycho, toi, bon, bah, au moins ça va te déclencher. Et je voulais le faire le matin, parce qu'on dit que c'est mieux de le faire le matin. Et en pleine nuit, je n'y tenais plus. Il était 3h du matin. Je me suis dit, bon, faut que je le fasse, parce que j'avais quand même une espèce d'intuition. Je trouvais ça bizarre. Je vais aux toilettes, je reviens dans le salon, je fais toute une espèce de petit rituel avant de regarder le papier. Au moment où j'avais fait pipi, il y a le mot garçon qui m'est venu en tête.
Eh oui.
Je me suis dit, non, mais si je suis enceinte, en plus c'est un garçon, ah oh, non, non, trois garçons, oh, non, non, mais de toute façon je suis pas enceinte. Je reviens dans le salon, je vois le test ultra positif. Il y avait vraiment les deux barres bien foncées. Et là j'étais très très stressée, parce que je me suis dit, en même temps au fond de moi un peu heureuse, et en même temps très stressée, et je me suis dit, mais comment je vais faire? Il faut que j'en parle à mon mari. Et moi, dans ces cas-là, quand je suis stressée, soit je passe l'aspirateur, mais à cette heure-ci, c'était un peu compliqué, soit je me lave les cheveux. Donc, je suis allée dans la salle de bain, je me suis lavé les cheveux, j'ai pris un bain. La salle de bain est collée à la chambre, mon mari n'a pas entendu l'eau couler. En revanche, quand j'ai sorti mon gros sèche-cheveux, il est arrivé dans la salle de bain comme une furie. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais à 3h30 du matin en train de te sécher les cheveux? Je lui dis, non, mais c'est parce que j'étais stressée. Il me dit, non, mais n'importe quoi. Et là, il est allé aux toilettes, et le temps qu'il était aux toilettes, j'ai mis la notice du test de grossesse, j'ai posé le test de grossesse, j'ai dessiné un cœur sur la notice, et je l'ai posé sur son oreiller. Et là, je le vois qui revient, complètement halluciné, et en même temps avec un sourire content. Il me dit, non, mais c'est pas vrai. Et donc, nous en étions, voilà, nous étions à ce stade. Là, c'était le début de la grossesse, et c'était une grossesse qui semblait bien enclenchée, en tout cas vu le test, on voyait qu'elle semblait bien partie.
Alors toi, à ce moment-là, tu découvres cette nouvelle grossesse, est-ce que tu penses immédiatement à l'accouchement ou pas du tout?
Alors au moment de cette grossesse, je me suis posé la question que peuvent se poser les femmes, je me suis dit, est-ce qu'on le garde? Et la réponse a été immédiate, oui. Parce qu'on s'était toujours dit, si la vie nous offre ça, moi j'aime bien voir des signes, des choses comme ça, je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il devait y avoir un petit quatrième. Et je voyais bien qu'au fond, l'un comme l'autre, nous n'étions pas fermés à cette éventualité. Et après, je me suis dit, oh non, mais j'ai la flemme. J'avais la flemme d'accoucher, évidemment, mais j'avais la flemme de refaire les prises de sang tous les mois, sachant que moi, je n'ai jamais été immunisée contre la toxoplasmose, alors que j'ai essayé, entre chaque grossesse, j'essayais de prendre des légumes bio, pas bien lavés. J'ai toujours eu des chats toute ma vie. J'ai changé des centaines et des centaines de litières. Mais après, comme j'ai une hygiène très, très, très orthodoxe, j'ai toujours fait attention à tout. Bah, je pense que je prenais pas de risques, et puis je pense que mon organisme ne voulait pas de la toxoplasmose. Donc je me disais, tous les mois je vais avoir ça, je vais avoir le stress de la toxoplasmose malgré tout, je vais avoir mes prises de sang pour ma thyroïde, parce que j'ai eu un dérèglement de la thyroïde à la suite de ma première grossesse. Et j'avais la flemme. Et en même temps, j'étais hyper enthousiaste, et je me suis dit, c'est la vie qui revient. Et il y a une petite anecdote dont j'ai pas parlé sur Instagram, parce que je voulais pas le dire, mais une semaine après l'annonce de ma grossesse, j'avais cette espèce de pulsion de vie en moi, je me sentais hyper heureuse, et j'ai appris, j'arrive au travail un jeudi, et je vois des gens, des collègues d'un autre établissement qui disent, mais ils sont au courant ou pas, les profs du collège? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, ben, cet élève-là. Je dis, bah oui, je vois très bien qui c'est. Je l'avais eu hier en cours, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se ressaisisse. Bah, il est mort cette nuit. Et j'ai un élève qui est mort dans une bagarre dans la rue à Paris. Et ça m'a complètement bouleversée. J'étais anéantie. Et je me suis encore plus raccrochée à la vie que j'avais en moi. Et je me suis dit, voilà, cet élève qui est mort, moi je me raccroche et j'ai la vie en moi, il faut que j'en profite. Ça, c'était exponentiel pour moi, et ça m'a apporté beaucoup de force pour supporter tout ça, parce que ça a été très dur pour tout le collège, pour les élèves. On a eu toute une cellule psychologique qui est venue. Moi, je suis retournée voir un psychologue parce que ça me faisait beaucoup de bouleversements, et j'ai suggéré la mort de cet élève très rapidement grâce à lui, parce qu'il m'a bien expliqué que c'était évidemment dramatique, mais que ce n'était pas ma famille, qu'il fallait que je réussisse à prendre mes distances, parce que je suis vraiment trop empathique. Et j'ai réussi à me reconcentrer sur la grossesse, mais je sais que c'est un élément que j'avais en tête, et c'est un élément aussi qui me faisait dire, bon, ça se trouve c'est un garçon que j'attends, parce que je m'étais convaincue, quelques heures après avoir fait le test et avoir eu mon intuition qui m'avait dit garçon, je m'étais convaincue que c'était une fille, parce que j'avais tous les symptômes fille cette fois-ci. J'avais envie de sucrer, j'avais eu des boutons, je m'étais dit, bon, là j'attends une fille. Et au fond de moi, et en réalité, j'avais confondu mon envie avec mon intuition. Donc il y avait ça quand même qui venait se mêler, qui venait un peu pas ternir la grossesse, mais quand même, il faut le reconnaître, on a des préférences pour le sexe d'un enfant. Et ça a été la seule difficulté que j'ai eue. C'était de savoir si c'était une fille ou un garçon. Et à la première échographie, qui a eu lieu en mars 2020, juste avant le confinement, heureusement mon mari était là, Je demande, donc tout se passe très bien. J'étais quand même très stressée pour la trisomie 21 parce que j'avais 38 ans à ce moment-là, ou 39. Non, j'avais 39 ans à ce moment-là. Donc je sais que les risques sont supérieurs. Elle me dit, ah bah la nuque est ultra fine, c'est super, même si ça ne prémunit pas de tout. J'avais déjà été rassurée de ce point de vue-là. Et là, j'ai commencé à souffler et je lui ai dit, vous pouvez me dire si c'est une fille ou un garçon, même si c'est tôt. Elle me dit, ben moi. Moi, je suis très forte à ça, oui, je peux vous le dire. Mais bon, c'est 80% de chance. Et je lui dis, ah bah oui, parce que comme j'ai une intuition, il me dit, quelle est votre intuition? Je lui dis, bah, pour moi, c'est une fille. Il me dit, ah bah, pour moi, c'est un garçon. Et j'étais, mais... Elle me dit, bah, au moins, ça vous laisse le temps de vous préparer. Donc elle était sûre d'elle. Elle nous a montré, elle a dit, regardez, là, le bourgeon, il ressort plus. Pour moi, c'est un garçon. Et je voyais qu'elle avait... Elle dit, quand je le dis, c'est que je suis sûre à 100%. Et au fond de moi, après, j'ai fait aussi des recherches sur Internet, erreurs lors de la première échographie, donc j'ai vu que ça arrivait très souvent, mais ça arrive rarement dans ce sens, c'est plus dans le sens, voilà, fille-garçon, là, en général, quand on dit que c'est un garçon, c'est bien un garçon. Ça m'a laissé le temps de me préparer, et ensuite, quand j'ai revu mon gynécologue et que j'étais enceinte de 4 mois vraiment passés, il m'a dit « Ah bah oui, c'est un petit mec ». Et il a senti... Moi, je ne pouvais plus rien dire. Je trouve que c'est... J'ai besoin d'en parler parce que c'est important. Et c'est un sujet tabou. Et j'avais vu une fille sur Instagram qui en a parlé. Je m'étais dit « Il faut que j'en parle aussi ». Et quand je suis rentrée à la maison, je n'ai fait que pleurer. Parce qu'en plus, comme pour moi, c'était une fille, que je m'étais convaincue que c'était une fille, il fallait déconstruire cet enfant que je m'étais imaginé pour accueillir ce petit garçon. Et ce qui est bizarre, c'est que de tout l'après-midi, je n'avais pas touché mon ventre, alors que c'était un bébé que j'ai senti. Dès 2 mois et demi, j'ai commencé à le sentir bouger, c'était incroyable. Et là, je n'avais pas touché le bébé. Et le soir, je me suis dit, bon, ben, quand même, le pauvre, il n'y peut rien. C'est lui qui est venu s'installer, c'était lui le champion, après tout, c'est lui qui a gagné. Et j'ai posé ma main sur mon ventre, il a tout de suite réagi. Et ça y est, je l'aimais, quoi. C'était vraiment mon petit garçon. Je me suis dit, bon, bah, je serai maman de 3 garçons et une fille. Et bah, c'est comme ça, et c'est une chance énorme. C'est ce qu'il faut que je retienne.
Et à aucun moment, tu penses au retour à la péridurale, à ce traumatisme que tu as vécu quand même
Alors, d'office, quand j'ai su que j'étais enceinte et que j'ai accepté l'idée, je me suis dit, je vais me préparer à accoucher sans péridurale.
D'accord.
Je me suis dit, je préfère 100 fois subir les contractions plutôt que de prendre ce risque, même si je savais très bien que le risque était infime, que je serais allée voir un anesthésiste expérimenté, que de ce point de vue-là, il n'y avait aucun problème. Et je voulais aussi connaître cette expérience, parce que j'étais retournée voir mon ostéo que j'adore, Éléonore, et elle m'avait dit, vous en êtes vraiment capable, et vous allez voir, c'est une expérience incroyable. Et je m'étais dit, ça va être aussi un défi que je me lance, et ça me permettra de réparer l'expérience douloureuse précédente.
Et alors, comment ça s'est passé, toute la préparation
Alors là, je me suis dit que j'allais me faire confiance entièrement. Je me suis dit, je ne vais pas prendre de cours à l'accouchement, je connais tout par cœur, et honnêtement, je ne suis pas la première à le dire, et je ne vais pas être la dernière, ça ne sert pas à grand-chose. Il vaudrait mieux qu'on apprenne, comme le disent souvent des femmes, des cours sur la parentalité plutôt que des cours de préparation à l'accouchement. Je n'ai rien fait de ce point de vue-là. En revanche, j'ai acheté plusieurs livres, notamment un livre qui s'appelle « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» Et celui-ci, je l'ai lu 2 fois pour bien bien le maîtriser. Et comme j'ai un côté, comme je l'ai dit précédemment, très bon élève, je savais qu'il fallait que je m'en imprègne totalement. Et j'avais toutes les astuces. Et le mois avant d'accoucher, j'ai écouté tous les jours des méthodes de méditation liées à l'accouchement pour pouvoir me mettre dans ma bulle le jour J et une espèce d'auto-hypnose pour gérer toute la douleur le jour J.
Et tu t'es pas fait accompagner par une spécialiste ou
Alors, je n'ai pas voulu me faire accompagner parce que, avec mon tempérament, j'ai du mal à demander de l'aide. Et surtout, nous étions dans cette fameuse période confinement, Covid, déconfinement.
Ah oui.
Et je m'étais dit, bon, ça va être compliqué, tout me paraissait compliqué. Et je savais qu'au fond de moi, j'avais toutes les ressources nécessaires. Je n'ai contacté personne. Et comme les livres, les podcasts, j'ai écouté tous les podcasts possibles et inimaginables sur la maternité, ils m'ont bien aidée, je me sentais prête. Et je savais que j'allais m'en sortir. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'accoucher, une fois de plus, je suis retournée voir ma sage-femme qui m'a dit « Bah là, oui, vous êtes prête. » Elle m'a permis d'ouvrir le bassin. Elle m'a dit « Le jour J, il faut que vous soyez vraiment dans votre bulle. Il faut que vous... » Elle m'a dit « Vous avez une voix forte et il faut que vous poussiez un cri. Un cri que vous avez retenu depuis toujours. Poussez-le, vous allez voir un cri presque animal. » Et ça va être génial, ça va être merveilleux. Et donc j'avais cette force-là, je me suis dit, bon, bah, tout ce que j'ai toujours retenu, je vais l'expulser ce jour-là.
Et alors, le projet de naissance, c'était d'accoucher donc dans la même maternité que la précédente, dans alors, une maison de naissance, enfin, dans une salle nature.
Donc, pour l'accouchement, j'ai demandé son avis à mon gynécologue. Et il m'a dit, écoutez, j'ai l'impression, quand je vous entends parler, que cette maternité où vous étiez, elle était très bien, mais vous avez un mauvais souvenir là-bas. Si vous pouvez éviter, allez ailleurs. Il m'a donné deux noms de maternité, et il y en avait une qui me tentait beaucoup à Paris, où lui exerçait en plus. Donc je me suis dit, bon, ça me rassure. Ouais. C'était une petite structure, c'était pas du privé, mais quand même, c'était pas non plus un hôpital public qui était trop une usine, parce que moi j'ai besoin de me sentir rassurée, qu'il n'y ait pas trop de monde. Et je me suis tout de suite sentie à l'aise. Et là, je savais qu'il y avait une salle nature. Et je m'étais dit, bah, si jamais j'ai accès à la salle nature, c'est bien. Mais le mieux, ce serait que je fasse tout le travail à la maison. Et j'ai une amie sage-femme, qui s'appelle Karine, comme moi, qui m'avait dit, juste, je l'avais vue 2 mois avant, qui m'avait dit, le secret, si tu veux accoucher sans péridurale, c'est que tu arrives en étant vraiment dilatée au maximum.
Et, oui.
Et que tu aies tout fait à la maison tranquillement. Donc j'avais ça en tête. Et je m'étais dit, il faut que j'accouche. Je voulais accoucher le 9 septembre, parce que je trouvais que 09-09-2020, c'était super beau comme date. Sauf que mon mari avait une échéance de travail très importante le 9 septembre. Il m'a dit, non, s'il te plaît, n'accouche pas le 9. ma mère et ma sœur m'avaient dit, t'as qu'à accoucher le 7 septembre. Je me suis dit, oui, mais le 7, j'avais rendez-vous chez mon psy. Et je voulais absolument avoir mon dernier rendez-vous chez mon psy avant l'accouchement. Et j'ai dit à mon psy, bon, bah, maintenant, je me sens prête. Et en fin de journée, ma mère m'écrit, elle me dit « Alors, tu vas accoucher, là ?» Je lui dis « Ah non, j'ai aucun signe annonciateur. » Elle me dit « Ah, mais la journée n'est pas finie. » Et le soir, à 18h, je commence à ressentir des contractions. J'en avais pas du tout eu de la grossesse. Enfin, j'avais eu des petites contractions très légères, mais pas douloureuses. Et là, je me suis dit « Oh, c'est bizarre. » Mais j'arrivais très bien à les gérer. J'ai prévenu ma mère, qui était très stressée, parce que c'était elle qui devait venir en pleine nuit, éventuellement garder les enfants. Et je lui dis « Non, ne viens pas. Je préfère vraiment attendre. » Et là, au fur et à mesure de la soirée, ça s'est accentué. Je suis allée me coucher vers 1h du matin, parce que je m'endors très tard. J'ai commencé à lire mon livre et j'étais énervée. Je me suis dit, oula, j'étais énervée parce que je commençais à ressentir de la douleur. Je n'arrivais pas à lire. Je suis allée prendre un bain, j'ai pris du space-fond. J'étais super bien dans le bain, mais je voyais que les contractions commençaient à vraiment s'accentuer. Et tout le monde dormait dans la maison. Je me suis dit, bon, il faut que je les gère. Là, je veux vraiment tenir un maximum. Et je veux appeler ma mère au dernier moment, parce que si elle vient là, même si c'est ma mère et que je suis très à l'aise avec elle, j'ai peur de ne plus oser faire tout mon travail préparatoire. Et donc, je me suis enfermée dans la chambre où il y avait très peu de place. J'avais mon gros ballon sur lequel j'ai fait des mouvements de bassin. Et j'ai commencé à faire les sons que je faisais au yoga, des sons très graves, parce que ça permet aussi vraiment, ça permet d'ouvrir le col. Et donc, j'ai fait des très, très puissants. Et ça m'aidait énormément à gérer les contractions. Puis je me suis dit, allez, je vais regarder un petit peu la maison des maternelles avec la fameuse sage-femme Anna Roy, qui expliquait à quel moment il était temps de partir. Et elle disait, c'est le moment où vraiment vous avez envie d'insulter votre mari. Et là, je me suis dit, non, là, j'ai pas encore envie de l'insulter, donc je suis pas prête. Et puis, j'ai téléchargé à ce moment-là une application qui compte les contractions. Et je devais à chaque fois juste appuyer sur un bouton quand j'avais une contraction. Et puis au début, c'était toutes les 12 minutes, c'était irrégulier, puis un peu moins. Et à un moment, il y a un message qui s'est affiché où il y a écrit « il faut partir à la maternité ». Donc là, je me suis dit « bon, j'appelle mon mari » et j'ai commencé à avoir très très mal. Il m'a dit « attends, j'appelle ta mère ». Il a commencé à stresser aussi. Moi, je me suis mise dans le salon à continuer à faire mes homes en me disant « tant pis si je réveille les voisins, tant pis si je réveille les enfants ». Personne n'a rien entendu. Et là, j'arrivais plus à gérer, j'arrivais même plus à mettre mes baskets, qui pourtant, c'était des Converse, il suffisait de les mettre sans mettre les lacets, je n'y arrivais plus. Et il m'a dit, attends, mais il faut que ta mère vienne, ma mère habite à 3/4 d'heure quand ça roule bien. Elle devait prendre un Uber parce qu'elle n'a pas le permis. Je lui ai dit, non, mais tant pis, il faut qu'on y aille, parce que sinon, je vais accoucher ici. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, écoute, on met les clés dans le hall, derrière la plante dans le hall, ce qu'on n'a jamais fait de notre vie, et puis on y va, là. Donc, ma mère, mon mari m'a dit, bah attends, appelle ta mère. Je ne peux pas l'appeler. J'étais dans l'ascenseur plié en deux. Nous sommes descendus. Il a balancé les clés dans le hall, et là, nous étions en voiture. Et il commence à me dire, attends, la maternité, ça s'écrit donc diaconesse avec un Y. Et là, j'ai eu envie de l'insulter. Je me suis dit, non seulement il sait pas écrire, et en plus j'avais l'adresse exacte et lui il voulait écrire avec une faute d'orthographe, je n'arrivais même plus à parler. Et là, je me suis dit, bon, bah, il est temps. Nous étions sur le périph à 3h30 du matin. Il y avait plein de camions. Je ne sais pas ce qu'il y avait, une voie qui était fermée, donc plein de camions. Je me suis dit, non, mais je vais accoucher sur le bas-côté. Je me visualisais en train d'ouvrir la portière et de sortir pour accoucher sur le trottoir. Je ne voyais que ça. Et j'avais une fois de plus rabattu le siège au maximum. Et j'étais en train d'essayer vraiment de m'étirer le plus possible, en train de faire oum avec la fenêtre ouverte parce que j'avais très très chaud. Nous sommes arrivés devant la maternité en 20 minutes, mais ça m'a paru interminable. Et une fois devant, mon mari dit « Attends, mais je peux pas laisser la voiture dans la rue. » Là aussi, j'avais envie de l'insulter. Je me disais « Mais c'est pas grave, si tu te prends une contravention, on s'en fiche, il est 4h du matin. » J'ai sonné, il y a un petit monsieur, là aussi, un petit monsieur hirsute qui est arrivé, qui m'a dit « C'est là. » Je me suis dit « Mais comment est-ce que je vais marcher ? Je devais monter des marches. » J'ai sonné une fois de plus, et il y a la sage-femme de garde qui m'a ouvert. Elle m'a dit « Qu'est-ce que vous venez faire ?» Je lui ai dit « Je viens accoucher. » Mais elle a bien senti à mon ton que ça n'allait pas. J'ai monté les escaliers parce que je ne trouvais pas l'ascenseur. Je me dis, je ne veux pas être bloquée dans l'ascenseur. J'arrive tout en haut des escaliers. La porte était fermée. Je me suis dit, je vais accoucher dans les escaliers. Finalement, je réussis à trouver un ascenseur. Je redescends. Et là, la sage-femme me dit, j'ai à peine eu le temps de parler. Je lui dis, je viens accoucher. Elle m'a ouvert la première salle qu'elle trouvait face à la porte. Je me suis jetée sur le lit. J'ai enlevé... qu'est-ce que j'ai enlevé ? J'ai enlevé ma robe et je me suis mise sur le côté. Et je lui dis, non, mais là, je vais accoucher, dites-moi. Elle regarde, elle me dit, ah bah oui, vous êtes à dilatation complète. Et là, j'étais trop contente, je me suis dit, bon, bah c'est bon, j'ai fait tout le travail. Elle m'a dit, bah là, maintenant, c'est bon. Et je continuais à faire mes cris, mais vraiment, mes homes dans tous les sens, des cris très graves. Et je voulais que mon mari soit là. Donc il arrive, il dit, c'est bon, je suis là. Et j'avais encore envie de l'insulter parce que j'avais vraiment mal. Et puis je me disais, non, mais c'est pas lui qui va le faire de toute façon. Et puis, en revanche, dans ces cas-là, quand on veut accoucher sans péridurale, le mari, c'est un coach. Et je l'avais bien dit, il faut que tu me coaches. Et quand je veux abandonner, puisqu'il y a la fameuse phase de désespérance, il faut que tu me dises que c'est bon, que j'y vais. Et là, je savais que je pouvais pas avoir de péridurale de toute façon. Et je savais aussi que quand on commence à pousser des cris aigus, c'est mauvais signe. C'est qu'on n'arrive plus du tout à gérer. Et dès que je commençais, donc j'étais là, oui, il me disait, non, grave, grave. Donc j'étais, oum. Donc il a bien réussi à me coacher. Et la sage-femme, à un moment, m'a dit, mais vous pouvez y aller là, hein. Parce que j'étais encore conditionnée. Depuis le début, j'essayais de retenir, parce que j'ai réussi à retenir le bébé jusqu'à la maternité. Elle m'a dit, non, non, mais là, il suffit de pousser. Je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin de me mettre à quatre pattes. Elle me dit, mais allez-y, faites comme vous voulez. Et j'ai poussé deux fois. Et là, au moment de pousser, j'ai eu la poche des os qui a éclaté. Donc là, j'ai senti, parce que jusque-là, je me disais, ah, bah, ça va être un bébé qui naît coiffé. Et là, donc il y a du liquide partout. Et j'ai senti que ça aidait vraiment à descendre. Et j'ai poussé deux fois. Et là, on n'en revient toujours pas. On voit le gros bébé qui sort d'un coup, la splotch. Elle l'a rattrapé au dernier moment. Il a pleuré direct. Et c'était merveilleux, quoi. C'était... hyper simple, hyper facile. J'avais vraiment peur du fameux cercle de feu au moment où le bébé passe, où la tête du bébé passe. Je ne l'ai absolument pas ressenti. Vraiment, une fois de plus, la douleur de la brèche a été 100 fois pire que la douleur des contractions et la douleur de l'accouchement. Vraiment, de toute façon, j'étais shootée à l'ocytocine. J'étais hyper heureuse. Et c'est un souvenir merveilleux, un souvenir d'une puissance incroyable. En revanche, je sais que j'ai réveillé tout le monde. Sachant que je suis quelqu'un de très discret, à chaque fois, je ne veux pas faire de bruit, je ne veux pas qu'on me remarque. Et là, la sage-femme me l'a dit après, hein, m'avait dit, vous avez réveillé tout l'étage. Les femmes se demandaient ce qui se passait, mais elle m'a dit, mais c'est super, hein, nous, des accouchements comme ça, on en voudrait tout le temps. Je suis arrivée à 4h à la maternité, à 4h29, le bébé était là.
Ah oui.
Donc ça a été très rapide et merveilleux. Je lui ai demandé si on pouvait laisser battre le cordon, parce que je sais que c'est bien, les échanges sont très très bons pour le bébé. Elle m'a dit aucun problème, puis elle m'a dit regardez, il ne bat plus, là c'est bon, on peut le clamper. Mon mari a coupé le cordon comme pour tous les autres accouchements ensuite. Et surtout, ce qui m'a fait bizarre, c'est que très rapidement, elle m'a dit, enfin au bout de quelques minutes, elle m'a dit bah là, vous pourrez aller faire pipi debout. Donc là, je me suis relevée, et c'est la première fois que j'étais pas dans un siège, pas dans un fauteuil roulant, et je me sentais en pleine forme. Mais alors là, j'ai vu la différence, j'avais le teint rose, j'ai jamais eu le teint aussi frais. Et j'étais hyper heureuse. Donc le bébé, lui, il faisait que dormir les heures suivantes. Moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'il se réveille. Mais vraiment, j'ai jamais eu une forme comme ça. Et le shoot d'ocytocine, j'ai écrit un texte là. Un texte tellement j'étais pleine d'émotions et pleine de joie. Alors qu'en temps normal, j'étais quand même shootée pour les autres accouchements. Donc tout ça, c'est venu réparer. Ça a été une puissance incroyable. Et je m'étais dit, si je pouvais accoucher encore, je le ferais. Donc là, heureusement, je n'ai plus l'âge. C'est plus possible. Mais si je pouvais, je voudrais revivre ça. Mmh. Et si j'ai un message à faire passer, c'est essayer. Si au fond de vous, vous avez cette envie, dites-vous que c'est tout à fait possible d'accoucher sans péridurale et qu'on peut avoir un moment de joie tellement intense qu'on oublie cette douleur qui est très passagère finalement. Et on a une puissance. Là, je suis en pleine métamorphose depuis cet accouchement. Je ne me reconnais pas. J'ose vraiment m'imposer. Je suis en pleine créativité. Je me lance des défis et je parviens à les honorer grâce à toute cette puissance.
Ça t'a donné de l'assurance
J'ai énormément d'assurance. Mmh. Je me dis, j'ai été capable de faire ça. Donc je sais qu'il y a des femmes qui l'ont toujours fait. Et j'avais ça aussi en tête au moment d'accoucher. Je pensais à toutes les femmes de toutes les générations et même de plein de pays qui accouchent sans péridurale. Et je me suis dit, elles sont capables de le faire, moi aussi. Et j'ai pensé à elles. J'avais cette espèce de sororité, là, pour une fois. Et cette force des femmes qui étaient là et qui m'ont entourée.
On ne peut pas revenir en arrière, mais si tu devais, si tu pouvais revenir en arrière, tes autres accouchements, tu les aurais fait finalement sans péridurale ?
Si je pouvais revenir en arrière, je pense que j'aurais fait le premier accouchement avec, parce que j'étais vraiment décidée, j'avais été conditionnée, j'allais dire toute ma vie, mais presque, par ma mère qui m'avait dit « Non mais la péridurale, c'est une invention géniale, elle fait partie de cette génération-là. » Je pense que pour ma fille, j'aurais tenté, parce que tout s'était vraiment très très bien passé. Ça aurait été tout à fait faisable, sachant qu'en plus, à chaque fois, j'ai attendu d'être dilatée à 7 pour prendre la péridurale. Et je vois bien, on m'a dit 7, c'est le stade critique. Et je voyais qu'en plus, je la prenais, mais que je pouvais tenir encore. Mmh. Puisque j'ai quand même une force et j'arrive bien à résister à la douleur. Donc si je pouvais, j'accoucherais sans péridurale pour les 3.
Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
La maternité m'a donné justement cette assurance dont je parlais, mais dès le début, parce que je n'avais pas du tout confiance en moi. Et souvent les gens sont étonnés, ils me disent « pourquoi t'as pas confiance en toi ?» Mais c'est quelque chose qui nous est inculqué, on grandit comme ça, et puis quand on n'a pas forcément de figures, d'autorité qui peuvent nous donner confiance, on grandit avec ses failles. Et mon mari m'a vraiment donné confiance en moi, mais alors le fait d'avoir des enfants, il y a une espèce d'instinct maternel qui s'est toujours révélé en moi, et comme je veux défendre mes enfants, j'ai envie de me défendre moi aussi. Donc j'ai eu beaucoup de force grâce à ça.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Pour moi, être une maman parisienne, c'est avoir une multitude de possibilités. Un choix énorme de sorties culturelles, de lieux de divertissement pour les enfants et savoir faire les bons choix. Parce que même actuellement, même quand tout était fermé, nous avons plein de possibilités. Là, avoir le bois à côté, avoir le parc floral, plein d'espaces verts, aussi bien à Paris qu'en proche banlieue, c'est une chance énorme. Et là, avec la réouverture des lieux de culture, avoir par exemple la Villette qui intéresse énormément les enfants de tous les âges, c'est une très très grande chance et j'en suis consciente.
Justement, quel est ton lieu kid-friendly préféré à Paris ?
Mon lieu favori actuellement pour les enfants, c'est le parc floral à Vincennes. C'est très très facile de s'y rendre puisque c'est au bout de la ligne 1. C'est pas loin du tout de la sortie du métro. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément d'air de jeu pour les enfants. Ils savent, ils ont de quoi se divertir avec les toboggans, les tyroliennes, etc. Mais il y a aussi des pans qui se baladent, des espèces florales qu'on peut observer. Donc ce que j'aime, c'est le côté ludique et éducatif à la fois.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors j'ai un projet personnel, c'est de continuer à, j'allais dire, m'émanciper de toutes les brides que je m'étais mise moi-même. Et j'ai envie de laisser parler ma créativité. Et je sens qu'il y a des choses qui vont m'arriver en ce moment. Donc je continue mon métier, hein, je suis enseignante, je vais le continuer. Mais je sens que j'ai des opportunités qui vont se présenter à moi. Peut-être écrire un livre, peut-être faire des chroniques à la télévision. J'attends que les choses viennent, je fais en sorte que ça arrive parce que je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Et il y a des signes comme ça qui sont en train de survenir. Et je veux développer ce côté-là chez moi, ce côté créatif.
Et en famille ?
En famille, là, en projet immédiat, nous voudrions partir au bord de la mer, en Bretagne. Nous avons découvert vraiment la Bretagne en famille l'an dernier et nous avons envie d'y retourner, donc nous irons cet été. Et puis continuer à avoir tous ces moments privilégiés avec les enfants parce que nous nous sommes énormément rapprochés grâce à tous ces confinements, à toute cette période étrange. Et c'est ça le plus important, ce sont tous ces moments qu'on vit qui sont si merveilleux et qui ne reviendront pas.
Merci beaucoup Karine.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup.
Pour échanger sur le sujet abordé avec Karine, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 88 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.